Madame, Monsieur, bonjour, il est 13h, vous êtes bien sur 48FM. Emilio Carvajal vous présente le programme de ce journal. Bonjour Emilio.
Bonjour Eléa, bonjour à tous. Dans les titres aujourd'hui, Willy de Meyer a présenté son projet de budget pour 2026. Nous avons contacté le bourgmestre pour connaître le point clé de la politique communale pour le futur de Liège. Une pétition est lancée pour sauver l'ancienne patinoire de Liège. Ce bâtiment historique, pilier de la culture liégeoise, va être vendu ce lundi. Créer, innover, durer, les nouveaux terrains des médias et des cultures populaires, c'était le sujet de la conférence à la Grand Poste avec, vous allez l'entendre, des invités de marque. Et enfin, le nom du lauréat du concours journalistique Belgodyssée est connu, il est namurois, nous l'avons rencontré. Ce matin, le bourgmestre de Liège, Willy de Meyer, est revenu sur plusieurs points clés concernant l'avenir de la ville, dont un projet de budget 2026. Eléa Schillaci, vous avez rencontré le bourgmestre. Quel est le véritable enjeu pour la politique liégeoise ?
Le budget 2027 représente un véritable moment de vérité pour le bourgmestre liégeois Willy de Meyer. La fin du plan oxygène suscite des inquiétudes et il va falloir trouver des solutions.
En 2027, nous n'avons plus l'aide du plan oxygène qui se termine et nous perdons là 46 millions d'euros. Donc il fallait trouver le moyen dans les projections budgétaires jusqu'à 2031 d'avoir l'équilibre pour cette année 2027 qui sera difficile à atteindre.
Le Meyer évoque des dépenses importantes qui menacent l'équilibre budgétaire de la ville.
L'université, c'est évidemment une grande chance pour une ville d'avoir sur son territoire une université publique complète, mais ça génère des charges. Nous avons 18 000 coteurs sur le territoire de la ville de Liège, mais ces coteurs, la plupart du temps, ne sont pas domiciliés, donc ils sont des coûts pour la ville et ne rapportent pas. Mais il y en a d'autres, des charges de police, des charges de propreté. Et nous avons chiffré ce déficit à au moins 35 millions d'euros.
Selon le bourgmestre, certaines de ces dépenses ne concernent pas uniquement les Liégeois et il tente d'attirer l'attention de la région sur cette problématique.
Par exemple, quand vous avez une manifestation importante, imaginons une manifestation syndicale ou une manifestation des agriculteurs, elle ne concerne pas que les habitants de Liège. Mais nous devons payer le service d'ordre avec l'argent de la ville. Donc ça pose problème. Ce sont les habitants liégeois qui, en grande partie, contribuent avec leurs taxes. Donc il y aurait des choix à faire à ce niveau-là. Et c'est aussi une manière de dire à la région qu'elle doit nous aider pour assumer cette fonction-là.
Willy de Meyer espère pouvoir réaliser suffisamment d'économies d'ici 2030 pour relancer ensuite de nouvelles politiques bénéfiques pour Liège.
L'ancienne patinoire de Liège, bâtiment emblématique des bords de Meuse, est menacée. Il a été construit pour l'exposition de l'eau de 1939 par le célèbre architecte liégeois Jean Moutchen. Lundi, la ville mettra en vente la patinoire et Etias compte parmi les intéressés. Pour les défenseurs de l'architecture, le projet n'est pas à la hauteur des enjeux patrimoniaux. Ils ont lancé une pétition. Oriane Mauss nous explique les enjeux.
Conserver le hall d'entrée et démolir le reste du bâtiment, voilà le projet d'Etias. Une proposition incompréhensible pour Sébastien Charlier, historien de l'architecture et porteur de la pétition.
Le problème, c'est que dans le projet d'Etias, l'idée, c'est de garder uniquement le petit volume d'entrée, celui à l'intégration d'œuvres d'art, mais tout le grand volume qui se situe derrière sera démoli. Démolir pour reconstruire, en termes d'énergie, en termes d'écologie, on est plus dedans. Et donc l'idée, c'est de pouvoir maintenir la structure générale du bâtiment, l'ossature en béton et en métal, qui fonctionne toujours très bien. Il n'y a pas de problème avec ça.
L'objectif, inscrire le bâtiment sur la liste de sauvegarde. Il faut donc un minimum de 1000 signatures de Liégeois. Cela permettrait de gagner 6 mois, le temps nécessaire pour trouver un nouvel acheteur respectant le patrimoine.
La pétition, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle raconte tout simplement l'intérêt patrimonial du bâtiment et elle demande l'inscription sur la liste de sauvegarde du patrimoine wallon pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse réfléchir au-delà de la simple décision de démolir pour reconstruire. On veut avoir pendant 6 mois un temps de réflexion, un temps de débat pour envisager de manière qualitative l'avenir du bâtiment.
Si vous êtes amateur de rap et de culture populaire, vous étiez peut-être à la Grand Poste hier soir. Comment les cultures populaires redéfinissent les pratiques médiatiques et créatives avec les nouvelles technologies ? Voilà la question qui a dirigé la conférence. Une conférence avec des invités de marque, Valentin.
Tout à fait. Deux grands noms ont participé à cette conférence. Guillaume Guibert était présent. C'est le chef éditorial de Tarmac, l'une des radios de la RTBF. Il était accompagné de Hamad, le fondateur de Bouscapé, le média rap le plus connu en francophonie.
Alors, deux médias traitent des mêmes sujets, mais avec des missions différentes. Valentin, l'un est un média privé et l'autre est un média de service public. politique.
Alors, Bouscapé est un média privé qui a été visionnaire à l'époque, puisque fondé sur le web en 2005. Pour rappel, en 2005, YouTube venait de naître, par exemple. Pour Ahmad, qui avait 20 ans à l'époque, le web était le meilleur moyen de créer son média pour traiter de la culture rap et populaire, sachant que la radio et la télé étaient assez réticentes pour parler de ces thèmes.
On est allé là où c'était possible. Et là où c'était possible, c'était Internet, parce que c'était nouveau, il y avait tout à imaginer encore. Et ça nous a réussi.
Alors on imagine que la réalité est assez différente lors de la création de Tarmac ?
Absolument, c'était il y a 10 ans et à ce moment, la RTBF avait besoin de parler aux jeunes, se rendant compte qu'elle le fait de moins en moins. Le projet Tarmac est arrivé, un média radio et digital pour parler aux plus jeunes sur la culture populaire, parce que c'est ce qui intéresse les jeunes. Alors à son arrivée, Tarmac n'a pas été vu du bon œil, comme le raconte Guillaume Guibert.
Il y a eu d'abord la phase de méfiance. Mais en fait, très rapidement, on se rend compte que bah, y a toute une série de missions de service public qui peuvent très bien être remplies par une chaîne comme Tarmac. Je parlais tout à l'heure de la mise en avant des talents de Fédération Année Bruxelles. Je ne pense pas qu'il y ait une chaîne à la RTB qui le fasse autant que nous, tu vois. Et donc, bah, ça, c'est une manière à la fois de faire ce qui nous passionne, c'est-à-dire parler de musique, et en même temps de cocher la case et de remplir la mission de service public qui nous a été donnée, quoi.
Du côté de la RTBF, Tarmac s'est implanté dans un média de service public, une antenne qui existait déjà et qui avait une certaine notoriété. On imagine que pour Bouscapé, c'est encore différent, il a fallu tout construire.
Eh bien pour Bouscapé, qui existe depuis plus de 20 ans, qui fête justement leurs 20 ans cette année, forcément ils ont dû se réinventer malgré la notoriété qu'ils avaient. Le plus important pour Ahmad, on le rappelle, le cofondateur du média, c'est le fait de se réinventer continuellement.
Se réinventer même quand ça va bien, tu vois, parce que souvent on attend d'être dans le creux de la vague avant de changer. Vaut mieux changer avant d'être dans le creux de la vague et être à l'affût et toujours ajouter du sang neuf, tu vois. Ce qui est cool avec Internet et les réseaux sociaux finalement, c'est que t'as pas de problème de temps, t'as pas de contraintes en fait. Tu fais ce que t'as envie de faire et de la meilleure manière possible.
On l'a compris, le média jouit d'une certaine liberté. Pour un média public comme Tarmac, la rédaction se considère aussi comme très libre face aux politiques, malgré qu'ils aient des comptes à rendre.
Même si on dépend bien sûr du politique, bah, c'est pas les hommes politiques ou les femmes politiques qui viennent nous dire « Ok, dans votre JT ou dans votre Easy News sur Tarmac, vous avez plutôt parlé de ça et pas parlé de ça, vous avez plutôt parlé comme ça et pas comme ça. » Donc je pense que c'est maintenant aussi à nous de se faire notre autocritique et de se dire « Ok, qu'est-ce qui, dans ce qu'on fait aujourd'hui actuellement, ce qu'on propose à notre public actuellement, qu'est-ce qui rentre vraiment dans notre mission de service public et qu'est-ce qui peut-être est un peu superflu ou entre moins dans ce style de mission.
Deux médias assez différents par leur structure, mais qui se sont affranchis de certains codes pour mettre en valeur la culture populaire. Merci Valentin. Les lauréats du concours Belgodyssée 2025 ont été révélés hier soir. Joachim Vincent pour la partie francophone et Peter Jan Lesage en néerlandais. Ce concours national rassemble des jeunes journalistes pour une collaboration avec la RTBF, la VRT, l'Avenir et CNAC. Une initiative du fonds Prince Philippe gérée par la fondation Roi Baudouin avec le soutien de la chancellerie du Premier ministre. Oriane Moss revient sur les coulisses de ce concours national.
Sept duos se sont affrontés pour le titre de la Belgodyssée, écriture d'articles et reportages télé. Cette année, ils réalisaient le portrait d'un jeune Belge inspirant. Le lauréat Joachim Vincent a ainsi filmé le combat de nombreux jeunes pour trouver un logement. Il décrit une aventure challengeante.
Il faut savoir que ça a été assez hardcore ces deux semaines. Il y a eu effectivement d'abord le stress de mon intervenant qui finalement n'était pas d'accord finalement que j'interviewe. Et puis après, la deuxième semaine de concours, c'était énormément de travail, très peu de sommeil. Il y avait des nuits où je dormais vraiment 2 heures. C'est vrai que voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc voir que ce travail finalement a été récompensé, c'est très chouette.
À la solde des épreuves, les futurs journalistes ont été reçus par le roi Philippe.
Un peu avant la cérémonie, en fait, on a une audience privée avec le roi. Donc ça, c'est un peu impressionnant, honnêtement. On est tous autour d'une table. Il y a le responsable du protocole qui arrive et qui nous explique qu'en fait, voilà, quand le roi va rentrer, on devra se lever, on devra l'appeler sire, on devra regarder dans sa direction, etc. Alors, il nous explique toute une série de choses. Puis, à un moment, comme ça, dans un grand silence, elle lâche mesdames et messieurs, le roi, quoi. Enfin, et puis là, on dit, oh, mon Dieu, je vais rencontrer le roi. Et puis il apparaît à la porte, comme ça, c'est très, très impressionnant, quoi.
À l'issue de ce concours, Joachim Vincent décroche un stage rémunéré à la RTBF, de quoi inspirer les futurs journalistes belges.
600 millions d'euros de droits d'auteur impayés aux Belges. 8 des 10 principales sociétés belges de gestion des droits d'auteur, dont la SABAM, ne respectent pas les délais légaux de paiement aux artistes, révèlent l'Echo et de Tade. La loi impose pourtant de reverser les droits perçus dans les 9 mois suivant la clôture de l'exercice. Au total, quelques 600 millions d'euros restent ainsi en attente de redistribution. Acteur majeur du secteur, la SABAM, qui représente près de 50 000 artistes, cumule à elle seule 293 millions d'euros d'arriérés. Son directeur Steven De Keyser invoque la complexité intrinsèque du système et le traitement de données préalables à toute répartition. L'organisme dépasse également le plafond légal de 15% consacré aux frais de fonctionnement. Face à ces retards massifs, le ministre de l'économie David Clarinval annonce un renforcement des contrôles. Un mur chargé de sens vient s'installer toutes ses valises à Liège au sein de l'ASBL Le Monde des Possibles. D'abord simple décor de théâtre, il est devenu un puissant symbole pour les personnes issues de la migration.
Avec ses 4,10 m de large et ses 2,40 m de haut, ce mur est colossal, tant par sa taille que par sa signification. Soufiane El Hassan, son créateur, l'a confié à l'ASBL Le Monde des Possibles.
Ce mur est composé de valises qui correspondent chacune à une nécessité ou un besoin. Par exemple, il y a une valise qui parle de nourriture, puis il y a de la lecture, il y a la télévision, il y a la radio, il y a les toilettes, il y a tout. Et donc on est parti dans une espèce de scénographie à l'intérieur des valises. Ça représente pour moi tout ce que les gens y ont laissé.
Cette ASBL accompagne plus de 200 personnes issues de la migration grâce à des formations et un suivi visant l'insertion professionnelle. Pour son directeur Didier Van der Meeren, ce mur de valises porte une symbolique forte.
Le mur des valises fait partie de cette démarche où les personnes vont pouvoir s'approprier un outil, l'adapter à leur vécu pour en faire un message d'interpellation de voir comment, par cet outil, on peut peut-être infléchir les politiques d'asile qui, en Europe, sont aujourd'hui particulièrement strictes.
Une symbolique que partage pleinement Soufiane El Hassan.
Pour nous, ça a du sens de rendre cette valise à des gens qui sont en situation directement.
Le mur de valise est aujourd'hui visible au cœur de l'ASBL Le Monde des Possibles, avant peut-être de repartir vers d'autres horizons.
Un reportage d'Elea Skilacci. Ukraine, des blessés dans une attaque de drones à Tver, près de Moscou. 7 personnes, dont un enfant, ont été blessées dans la nuit de jeudi à vendredi après la chute de débris d'un drone ukrainien sur un immeuble résidentiel à Tver, à 180 mètres au nord-est de Moscou, ont indiqué les autorités locales. Le gouverneur par intérim Vitali Korolyov a précisé que l'impact avait provoqué un incendie et endommagé plusieurs appartements, forçant l'évacuation d'une vingtaine d'habitants. Selon l'agence TASS, des vitres ont volé en éclats sous la déflagration. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, l'Ukraine est quotidiennement visée par des bombardements, tandis que Kiev mène régulièrement des frappes de drones en territoire russe, affirmant cibler des infrastructures militaires et énergétiques. On conclut ce journal par notre traditionnelle page sport. Valentin, vous reprenez les rênes aujourd'hui. Qu'avez-vous pensé de la page sport d'hier? Hormis cela, un Liégeois a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. Je vois ici qu'il a relié la région liégeoise à la Nouvelle-Zélande. Et tout ça en vélo?
Vous savez, Emilio, toujours imité, jamais égalé, il s'appelle Guillaume Lemaître. Au total, il a bouclé un périple hors norme, 30 000 km à vélo, 17 mois de voyage, 26 pays traversés pour relier la région liégeoise à la Nouvelle-Zélande, puis revenir bien évidemment. En plus de l'exploit sportif, c'est aussi une aventure solidaire. Le cycliste a créé une cagnotte afin de récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose, une maladie qui touche sa sœur.
On passe au foot, Valentin, la dernière journée d'Europa League avant la trêve hivernale s'est tenue et Genk affrontait hier le deuxième au classement.
Un match qui s'est soldé par une défaite face au club danois Midtjylland, 1-0. Les Limbourgeois ont payé une première période durant laquelle les Danois les ont immédiatement mis sous pression, ouvrant logiquement le score sur une bourde du gardien de Genk. Plus incisif après la pause, les Limbourgeois n'ont toutefois jamais trouvé les ressources nécessaires pour réellement inquiéter un Mittiland, resté maître de son sujet.
Et enfin, une exposition autour du sport ouvre ses portes aujourd'hui à la Cité Miroir, Valentin.
L'exposition s'appelle Podium, c'est une exploration intergénérationnelle de l'univers du sport. Elle mêle les enjeux sociétaux et les grandes émotions collectives que le sport a pu nous donner. Avec une scénographie conçue pour être participative, le parcours permet au public de revisiter des moments marquants, qu'ils se soient déroulés sur le terrain, dans les tribunes ou encore dans l'intimité des vestiaires. Vous pourrez revivre par exemple l'étape du saut en longueur de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin, c'était en 1936 on le rappelle, ou encore revoir les meilleurs moments des JO de Paris.
Et pour rappel, cette exposition est à découvrir jusqu'au 10 mai prochain. Merci Valentin, c'est déjà la fin de ce journal, merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous lundi à 13h et d'ici là, bon week-end à toutes et à tous.